cette réflexion au plan théologique sur ce que représente la famille dans la lumière de la sagesse de Dieu. Comment elle est cette église domestique, cette cellule de l'église? Comment, de fait, nous pouvons reconnaître dans la famille ce que nous voyons dans l'église à la suite du Christ, cette mission sacerdotale, cette mission royale et cette mission prophétique? Nous avons vu jusque maintenant la fonction sacerdotale de la famille, l'aspect de la famille comme l'Église, temple de l'Esprit-Saint. L'Église est temple de l'Esprit-Saint, et si la famille est Église domestique, nous pouvons donc dire aussi que la famille est comme le temple de l'Esprit-Saint, c'est-à-dire le lieu de la prière, le lieu où l'Esprit-Saint nous apprend à prier en premier lieu. Et la famille doit toujours se rappeler que c'est le lieu où l'Esprit-Saint désire. Il l'a voulu comme cela, que les tout-petits que Jésus aime d'un amour particulier apprennent à prier. Les premiers balbutiements de la prière, c'est toujours dans la famille. Et les derniers balbutiements de la prière, c'est encore la famille. L'alpha et l'oméga, voyez, le point de départ et le terme. C'est important de se rappeler ça parce que ça nous fait comprendre comment la famille à la fois dispose vers l'Église, cellule de l'Église, elle dispose, Église domestique, elle oriente vers, et aussi elle est achèvement. On pourrait dire ça aussi. Je ne l'ai pas souligné les dernières fois, je vous ai dit que je cherche avec vous, parce qu'il n'y a pas de théologie de la famille, il faut chercher, le Saint-Père nous le demande, il faut que nous essayions ensemble de découvrir cette place de l'Église domestique. Elle dispose, elle oriente, et en même temps elle achève, comme toujours. Ce qui dispose joue ce rôle ordinairement d'achèvement. Et d'une certaine manière, l'Église se termine dans la famille, voyez, se termine. J'ai souligné la dernière fois à propos de la vocation, comment il y a l'éclatement de la famille dans le mystère de la vocation, comment la famille s'achève dans la vocation, comment la famille s'achève dans la très sainte Trinité, puisque le mystère de la vocation, c'est justement cette exigence de la très sainte Trinité qui prend possession du cœur de l'homme pour qu'il soit totalement consacré à Dieu, consécration religieuse, qu'il soit médiateur d'amour, sacerdoce, les deux aspects complémentaires. Donc, la famille demande d'être achevée par le mystère de la vocation et du sacerdoce. Mais on peut dire aussi que tout le pèlerinage de l'Église, en tant que conditionnement, que l'Église est un mystère d'attente du retour du Christ, tout le pèlerinage de l'Église s'achève dans la famille, puisqu'il y a ce grand mystère de la mort qui est un mystère familial, la naissance et la mort. Et c'est par là que la famille doit maintenir le sens que Dieu est le maître de la vie et de la mort. Et je crois qu'aujourd'hui, la famille doit prendre conscience d'une façon très particulière qu'elle doit, dans ce monde qui se paganise, où on croit que l'homme pourra, de fait, devenir le maître de la vie et de la mort, la famille doit rappeler farouchement, c'est peut-être ça son témoignage très particulier au point de vue de la vérité, que Dieu est le maître de la vie et de la mort. Parce que c'est dans la famille que se réalise la naissance la conception et la mort normalement, quand les hôpitaux ne nous arrachent pas la mort. Il ne faut pas l'oublier. Normalement, on meurt dans sa famille. Une grand-mère, un grand-père doivent demander cela, même si on meurt un peu plus vite. Ça n'a pas grande importance. Il vaut mieux mourir auprès des siens et mourir dans ce climat de chaleur fraternelle et familiale. On ne peut pas toujours, hein, voyez bien, il y a les opérations, c'est sûr, mais quelquefois, on pourrait davantage opter pour cette mort silencieuse, paisible en famille. Je voudrais avec vous entrer maintenant dans cette fonction royale de la famille. Alors, comprenons bien, il ne s'agit pas de politique, hein, mais cette fonction royale de la famille au sens proprement de l'écriture, hein, puisque le terme est dans l'écriture. Nous devons donc essayer de le comprendre. Le sacerdoce du Christ est royal. Alors quand évidemment on a un chef d'État qui est un président de la République, on ne dit pas que le sacerdoce du Christ est présidentiel, hein, de la République. Non, ça ne va pas du tout. Et quelques-uns qu'on soit comme ça, c'est très curieux, mais on projette, vous voyez. Non, on dit royal. Pourquoi ? Parce que la forme de gouvernement royal, c'est la plus primitive. Et quand je dis primitive, je ne veux pas dire la plus simple, hein, la plus primitive. Parce que de fait, normalement, c'est une personne qui se dévoue totalement qui doit gouverner un pays. Vous comprenez très bien que quand on l'est pour 7 ans, on laisse ses bêtises sur le suivant. Et c'est le suivant qui emporte les conséquences. Et ordinairement, il augmente les bêtises. Et alors, les bêtises sont pour le suivant, et c'est jamais commode, n'est-ce pas ? C'est très vrai, on n'a qu'à regarder cela. Tandis que quand on doit gouverner en sachant que c'est toute sa vie, on est beaucoup plus prudent. On fait beaucoup plus attention, parce qu'on doit emporter toutes les responsabilités. Au fond, la responsabilité, elle est foncièrement paternelle. C'est ça qu'il faudrait comprendre. Royal veut dire paternel. C'est pour ça que j'ai dit tout de suite la vraie paternité. Il y a quelque chose de royal dans la paternité. Pourquoi ? Parce que qui dit royal, dit responsabilité plénière. D'irresponsabilité substantielle, d'irresponsabilité dans une fidélité. C'est ça, royal, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire une responsabilité qui est attachée à une personne. Ça ne veut pas dire du tout qu'elle est exclusive, hein, pas du tout. Mais elle est attachée à une personne. Et cette personne doit la prendre très profondément dans son cœur, au sérieux, en sachant qu'il est responsable d'une communauté, d'une petite communauté pour la famille ou d'une grande communauté quand il s'agit d'un pays. C'est très curieux que dans les royautés constitutionnelles, la seule chose qui demeure toujours dans la royauté, c'est que le roi peut toujours gracier. C'est l'ultime chose qui lui demeure. Quand vous regardez dans la royauté de la Belgique, par exemple, c'est l'ultime chose qui demeure. Il ne peut pas faire grand-chose, le roi. Il est ligoté. Il y a une chose qu'il peut faire, c'est de gracier. C'est le privilège qui lui est donné. Un condamné à mort peut être gracié par le roi. Et je trouve ça très beau, parce que ça montre que dans la royauté, il reste ce privilège d'être gardien de la vie et d'être responsable d'une façon ultime et dernière de sauver quelqu'un de la mort. Quelqu'un qui a été condamné, il y a ce geste de miséricorde. La miséricorde ultime et dernière est réservée à quelque chose de royal. est quelque chose de paternel. Je crois que c'est le Père à qui il est remis toute miséricorde, parce qu'il a une autorité royale. Et c'est en fonction de cette autorité royale qu'il lui est remis toute miséricorde. Alors nous allons essayer d'entrer ici, dans ce que représente cette fonction royale de la famille, en regardant le point de vue de la paternité et de la maternité. Je n'ai souligné que la paternité, mais la paternité enveloppe la maternité, si j'ose dire, comme lorsqu'il s'agit du mystère divin. La maternité divine de Marie est une maternité qui manifeste la paternité unique du Père. Tous les grands théologiens ont toujours souligné que la maternité divine de Marie était pour nous comme une manifestation de la paternité unique de Dieu. C'est très beau de voir que paternité et maternité vont être liées dans cette fonction royale de la famille. Et c'est cela que je voudrais souligner avec vous. De sorte que quand je dis vraie paternité, est inclus vraie maternité. Mais les titres doivent toujours être très très concis, n'est-ce pas ? Si on met un titre trop long, ça ne va pas. Alors on vous le coupe. Alors on dit vraie paternité et vraie maternité, n'est-ce pas ? Et les deux sources. Parce que c'est cela qui nous fait comprendre la fonction royale de la famille. Je vais m'expliquer. L'autorité dans ce qu'elle a de plus grand, dans ce qu'elle a de principal, elle est paternelle. J'allais dire que l'autorité est principalement paternelle. Je crois qu'on peut le dire, toute autorité vient du Père. Il y a quelque chose de très grand là à découvrir. Toute autorité vient du Père des cieux. Et donc, toute autorité a quelque chose de paternel. Et c'est pour ça que l'autorité du Père dans le foyer a quelque chose d'unique, d'irremplaçable. On ne peut pas remplacer cette autorité. Et dans un monde comme le nôtre, vous voyez, qui est un monde où, justement, de fait, l'autorité du Père et l'autorité de la Mère ont été terriblement brisées. Je vous l'ai déjà dit, vous le savez bien, on connaît tous un peu Freud et on connaît un peu les disciples de Freud. Freud a sapé l'autorité du Père. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus terrible. C'est très vrai qu'il y a des abus, pater familias, hein, chez les Romains. Alors il y a des vieux souvenirs et le pater familias avait des droits extraordinaires sur le Père, le droit de la vie et de la mort, hein. Et en Grèce, c'était comme ça aussi, au moins à Sparte. Il avait le droit de la vie et de la mort. Donc c'était trop grand, c'était pas vrai. C'était le Père qui prenait la place de Dieu. Mais c'est pas parce qu'il y a des abus dans la paternité et dans la maternité qu'on doit briser ce qu'il y a de si important et de sacré. Et je dis bien de sacré, la paternité du père de famille et l'autorité de la mère. Alors, comprenons, dans la lumière de Dieu, ce qu'est cette paternité. Nous l'avions déjà vu et nous l'avons vu pour la maternité. Je la reprends ici d'une manière un peu différente, vous allez tout de suite voir, pour que ça ne fasse pas une répétition de ce que nous avons déjà vu. Vous l'avez oublié sans doute, au moins. C'est sûr, on oublie ces choses-là. Je pourrais le répéter entièrement maintenant, et puis ceux qui n'y étaient pas, ce serait une manière de redécouvrir ce que c'est que la paternité. C'est tellement important. Mais je vais le reprendre d'une façon un peu différente, parce que je le prends à l'intérieur du mystère de l'Église. Je le regarde comme la famille qui vide cette fonction royale du Christ. Comme il y a une double paternité dans le Christ, comme il y a une double royauté dans le Christ, je peux dire que le père de famille a une double paternité. C'est pour ça que je mets les deux sources. J'ai mis ça pour que vous posiez un point d'interrogation en disant qu'est-ce que c'est que ces deux sources. Dans le Christ, il y a une double royauté. Il est roi parce qu'il est l'homme le plus parfait. Un homme parfait et roi à l'égard de toute l'humanité. Et il est roi, il est le plus parfait parce qu'il est le Fils de Dieu. Et il est roi parce qu'il est notre Sauveur. Et c'est en ce sens-là qu'il y a deux aspects de la royauté du Christ qu'il ne faut jamais oublier et qu'il ne faut jamais confondre du reste. Il y a une royauté qui repose sur la perfection de la nature humaine de Jésus. Il est l'homme parfait. Et il est le seul à pouvoir dire ça. Jésus aurait pu dire, regardez-moi et vous comprendrez l'homme. C'est Jean-Jacques Rousseau qui l'a dit, mais Jésus aurait pu le dire. Hein. Mais Jean-Jacques Rousseau, non. On le sait très bien. Mais il dit ça dans ses confessions, vous savez, au début. Il n'y a que Jésus qui aurait pu le dire, mais il ne l'a pas dit. À cause de son humilité et sa pauvreté. Mais il aurait pu le dire. C'est en ce sens-là que, dans son humanité, Jésus est vraiment roi de tous les hommes. Il est l'homme le plus parfait. Mais c'est surtout parce qu'il est notre Sauveur, parce qu'il offre sa vie pour nous et pour nous sauver, qu'on peut dire qu'il est le roi de chacun d'entre nous. Il est la tête et il est roi. Le père de famille, c'est évidemment pas parce qu'il est le plus parfait qu'il a l'autorité. Vous comprenez bien, c'est pas la raison, exactement comme un prieur, hein. C'est pas parce qu'il est le plus parfait. Saint Thomas se demande toujours s'il vaut mieux élire comme prieur le plus saint, le plus intelligent, le plus artiste. Il nous dit non. C'est le plus prudent. Pour bien faire comprendre que l'autorité d'un prieur dans un couvent, ça relève de sa prudence. Un père de famille, son autorité repose sur l'amour qu'il a pour son épouse et sur le fruit de cet amour qui est la fécondité à l'égard de ses enfants. Il est père parce qu'il est celui qui est source de vie. Oui, ce n'est ni à cause de ses vertus, tant que possible, il vaut mieux qu'il en ait, hein, ni à cause de son intelligence, mais à cause de son amour pour son épouse. Puisque le vrai mystère de la fécondité implique un amour de l'époux et de l'épouse pour être source de vie. La source de vie repose sur l'amour. Et elle repose sur cet amour plénier qui doit exister entre l'époux et l'épouse. Et c'est en tant qu'il est source de vie, et que cette source de vie est bénie par Dieu. Un animal n'a pas d'autorité, tandis qu'un père de famille a une autorité. Donc ce n'est pas seulement parce qu'il est géniteur, ce n'est pas seulement parce qu'il est celui qui engendre, mais c'est celui qui a reçu la bénédiction de Dieu. C'est celui qui coopère avec le Créateur, puisque Dieu répond à l'amour de l'époux et de l'épouse quand il y a fécondité. Et Dieu crée l'âme. Et Dieu veut que cette âme qui est créée dans le corps, et sans doute dès le premier instant de la conception, Dieu veut que cette âme qui est comme enfoui dans le corps et qui est principe de vie du corps. Dieu veut que cette âme, dans son développement, soit confiée totalement aux parents. Les parents sont source de vie à l'égard d'un être humain qui est une personne. Qui est une personne qui doit grandir. C'est pour ça que l'autorité naturelle du père et de la mère repose sur le mystère de la fécondité humaine, cette alliance fondamentale avec Dieu. C'est donc quelque chose de sacré. C'est une autorité sacrée, l'autorité du Père. Et c'est pour ça que Dieu dit « Honore ton Père et ta Mère ». Et ceci demeure, nous n'avons pas le droit de ne pas honorer nos parents. Même si de fait, nous avons découvert en grandissant des faiblesses, des lacunes, que nous avons découvert certaines failles qu'on n'avait pas vues quand on était jeune. On doit toujours les honorer. Et on doit continuer de les aimer. Cette autorité première, fondamentale, est très importante à se rappeler en face des idéologies freudiennes. Et c'est la même chose pour la mère. Puisque la fécondité est partagée. La mère a une autorité cachée, une autorité souterraine souvent, mais elle a une autorité. Et elle a une autorité quelquefois beaucoup plus forte que celle du père, parce qu'elle est plus proche. Et alors son autorité n'a pas du tout la même manière de s'exercer, mais c'est une autorité qui a une force unique. Vous allez tout de suite comprendre. Une véritable autorité qui vient de Dieu. C'est un service. L'autorité paternelle est un service. Le père aime ses enfants, non pas pour s'agrandir. Et le père exerce l'autorité sur ses enfants, non pas du tout pour sa gloire. Il exerce l'autorité sur ses enfants pour le bien de ses enfants. Et il doit toujours se rappeler que c'est cela qu'il y a de sacré, que c'est un service que Dieu réclame de lui, un service intelligent, un service d'amour, un service où il doit se donner totalement, pour le bien de ses enfants. Le jour où il ne cherche plus le bien de ses enfants, son autorité disparaît, au sens fort, puisque c'est un abus d'autorité. Le jour où il accapare ses enfants pour lui, en vue de sa gloire, en vue de son plaisir, et non pas pour le bien de ses enfants, son autorité disparaît. Alors comprenons bien, hein. Son autorité s'exerce en premier lieu pour ses enfants et par amour pour ses enfants et pour le bien de ses enfants, c'est-à-dire les éduquer, c'est-à-dire les porter, c'est-à-dire les aider, être le tuteur, le soutien, celui qui constamment est là pour orienter, redresser, corriger et surtout aimer. Et surtout maintenir la confiance, puisque une correction paternelle doit se faire toujours dans l'amour. Il est bien évident que ce service du père à l'égard de ses enfants donne au père la plus grande gloire qu'il peut recevoir. Mais ce n'est pas ça qu'il cherche. Donne au père la plus grande joie qu'il peut recevoir. Mais ce n'est pas ça qu'il cherche en premier lieu. C'est second. Ce qu'il cherche, c'est le bien de ses enfants. Et il doit tout le temps rectifier l'exercice de son autorité pour chercher le bien de, de ses enfants, pour essayer de comprendre ce qui peut les épanouir, pour essayer de comprendre comment il doit permettre à ces tout-petits d'être une personne humaine forte, capable d'engager la lutte, capable de se débrouiller, capable surtout de s'orienter vers le véritable bien. Donc, cette autorité qui se fonde sur la chair et le sang est une autorité qui implique l'intelligence prudentielle du père. C'est-à-dire qu'il doit être prudent non seulement pour lui, mais aussi pour ses enfants. Et qui dit prudence, dit responsabilité. Il est responsable de l'orientation première de la vie de ses enfants. Il n'est pas responsable, comprenons bien, des choix que l'enfant fera plus tard, c'est bien évident. Puisque le propre d'une éducation, c'est de permettre à une personne d'être libre et de choisir librement l'orientation de sa vie. Et de la choisir selon ce qui est pour l'enfant qui a grandi, ce qui lui semble là où il pourra être le plus homme ou femme, là où il pourra être le plus donné, là où il pourra, s'il est chrétien, suivre le mieux le Christ. Le choix personnel de la vocation, les parents ne sont pas immédiatement responsables. Ou un enfant qui pour une raison ou pour une autre, se met en opposition vis-à-vis de ses parents pour quitter le foyer, pour ne plus pratiquer, pour rejeter sa foi, il est bien évident que les parents ne sont pas immédiatement coupables et responsables. La responsabilité de l'éducation des parents regarde cette première éducation jusqu'au moment où l'enfant sera capable de choisir. C'est évident que ça conditionne énormément le choix de l'enfant pour après. C'est sûr. Et dans ce sens-là, les parents sont un peu responsables, mais ne le sont pas immédiatement. Donc l'autorité première du père, c'est celui qui éduque, qui est responsable de cette première éducation. La responsabilité de la mère, l'autorité de la mère, elle a quelque chose de très unique. Et je crois qu'il faut bien se rappeler cette volonté de Dieu, parce que c'est une volonté de Dieu, que le service de la mère est un service royal. Le service du père l'est, mais le service de la mère, j'allais dire, l'est presque plus. Il a quelque chose de plus royal parce qu'il a quelque chose de plus magnanime. Une mère doit donner sa vie pour son enfant, même si elle n'est pas obligée toujours de se sacrifier pour son enfant, elle doit en être capable de faire passer la vie de l'enfant avant sa propre vie. C'est impliqué dans le mystère de la maternité, cela. Et c'est impliqué dans ce service royal de la mère. Parce que ça, c'est vraiment être roi. On est roi si on est capable de donner sa vie pour ceux qu'on sert. On ne demande pas ça au président de la République. Mais on demande ça au roi. Un roi, on doit demander ça. D'être capable de donner sa vie pour ceux qui lui sont soumis. Le père aussi doit pouvoir le faire. Mais vous voyez, c'est moins immédiat. Tandis que la mère, c'est beaucoup plus immédiat. Et c'est en ce sens-là qu'il y a quelque chose de tellement royal dans le service de la mère. Il y a quelque chose qui touche la grandeur de Dieu. D'être source de vie. Vous savez, c'est pour ça que Tertullien dit cette parole si belle à propos du Créateur, Dieu est comme une mère qui ne dépose jamais son fardeau. C'est tellement beau ça. Dieu est comme une mère qui ne dépose jamais son fardeau, puisque Dieu nous porte toujours. Et Dieu ne cesse de nous porter. Il nous crée et il nous porte en lui. Et nous vivons en lui. Donc il y a quelque chose de sacré, vous voyez, dans la maternité. dans la maternité humaine, et par le fait même quelque chose de royal. Et la mère doit se rappeler cela. Elle coopère avec le père pour l'éducation. Mais avant cette éducation, elle a dû se donner entièrement. On ne peut pas remplacer une mère quand elle attend son enfant. Et elle est mère dès le premier moment de la conception. Et elle doit porter son enfant, être au service de l'enfant. Service royal qui exige toutes ses forces, qui la mobilise. Et ensuite, elle doit être tellement proche du tout-petit, de son tout-petit enfant. Et elle doit l'envelopper de ses soins, de son amour, de son don d'elle-même, en comprenant que si il y a un manque d'amour, un manque de don, ça aura des répercussions plus tard. Elle est responsable de cette première éducation. Et vous savez bien ce que disent certains psychologues, c'est peut-être un tout petit peu exagéré, mais il y a quelque chose de juste. Que les trois premières années sont quelque chose qu'on ne peut pas reprendre. C'est quelque chose de capital pour l'éducation. Et que d'une certaine manière, les premiers plis vont jouer un rôle très important. Il ne faut pas exagérer, parce qu'on peut toujours se convertir. N'est-ce pas ? On peut toujours. Et la conversion, c'est justement cette rééducation qui est une reprise radicale de tout. Mais n'oublions pas que selon la sagesse de Dieu, le rôle de la mère, quand elle porte son enfant, le rôle de la mère, dans cette première éducation, c'est unique. Et le père doit le savoir pour être un peu le gardien de cette éducation royale de la mère, pour être un peu le gardien de ce service substantiel de la mère. Et je crois que, vous voyez, c'est là où la coopération est si mystérieuse. Dans le premier moment, quand la mère porte l'enfant, service royal. Dans cette première éducation, le père est gardien. Et quand l'enfant grandit, la mère est gardienne. Vous voyez bien, parce que si le père exerce une autorité un tout petit peu trop forte, l'enfant viendra auprès de la mère pour se plaindre, pour pleurer. Il faut que la mère ait suffisamment d'intelligence dans son autorité pour à la fois consoler l'enfant et coopérer avec le père. Ce qui n'est pas commode. Et il faut les deux. Parce que si elle est uniquement du côté de l'enfant, en me disant « Mais oui, mon petit, je le connais bien, je sais bien ce qu'il est, que veux-tu ?» Vous comprenez très bien qu'à ce moment-là, il y a une division qui se fait dans le foyer. Et ce n'est plus l'autorité du Père.